Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Barbara Pompili, bonjour.
Bonjour.
Ministre de la Transition écologique, numéro 3 du gouvernement, nous allons parler de la loi climat, évidemment, et des conséquences sur notre quotidien, Barbara Pompili, mais je commence avec le Covid, 97 273 morts en un peu plus d'un an. Le gouvernement va-t-il instaurer en France une journée nationale d'hommage aux victimes? C'est une idée qui a été avancée hier à l'Assemblée nationale par le député Mathieu Orphelin, proposition de loi. Vous êtes favorable à cette idée? Est-ce que vous y réfléchissez, gouvernement?
Alors, pour être très franche, moi, je m'occupe du climat. Mais ce que je pense, c'est que ce qu'on attend tous, et là, moi, je me mets dans l'eau, c'est d'essayer de sortir de cette crise. On veut en sortir, on a besoin de se donner des perspectives, d'être accompagné. Et le rôle du gouvernement, c'est d'abord de faire ça. Et ensuite, on verra s'il y a un hommage aux victimes. Mais pourquoi pas? Moi, je ferme pas la porte. Mais je crois vraiment que là, ce qu'on nous demande, c'est de donner des perspectives.
Alors, l'Institut Pasteur a publié une étude. Si 90% de la population adulte est vaccinée, nous pourrons revenir à une vie normale, sans restriction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accélérer à tout prix la vaccination. Tout le monde le dit. Le fait-on? Oui, on accélère. Néanmoins, il y a problème. AstraZeneca, Moderna, boudé. Les Français veulent choisir leur vaccin. Que faire pour éviter cela, Barbara Pompili?
Je crois qu'il faut qu'on écoute ce que disent nos autorités de santé. Nos autorités de santé, elles prennent des précautions, elles regardent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Oui. Et donc, quand elles nous disent qu'on peut y aller, je crois qu'on peut leur faire confiance. Donc là, on a des vaccins qui ont été vérifiés, qui ont été testés, qui ont fait l'objet de tests, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. À partir du moment où nous avons des autorités de santé qui nous disent qu'on peut y aller, allons-y. On a besoin que tout le monde se vaccine le plus vite possible. On a fait une politique de vaccination qui est une politique en priorisant les publics les plus fragiles. Donc maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. On a tous besoin d'en sortir. Moi, je rêve de pouvoir retrouver une vie normale, enfin comme tout le monde.
Oui, comme tout le monde. Pour retrouver une vie normale et pour aller plus vite, certains proposent un fameux passeport numérique, vaccinal. D'ailleurs, c'est en place à New York et ça provoque beaucoup de débats. Barbara Pompili, vous êtes favorable à cela? Ça accélérerait le retour, je ne sais pas, au café, au restaurant, au spectacle, dans un stade?
Je crois que la question ne peut pas se poser tant qu'il n'y a pas plus de monde vacciné. Là, pour l'instant, on est en montée en puissance sur le vaccin. Ce serait une vraie discrimination. Donc,
quand on aura 50 ou 60% des adultes vaccinés?
Quand on sera plus loin, pourquoi pas? Parce que après, il y a une liberté de choix aussi. Il y a des personnes qui souhaitent ne pas se faire vacciner, c'est leur choix. Moi, j'incite tout le monde à y aller.
Si on décide de ne pas être vacciné, on décide de ne pas aller au spectacle, au stade ou au restaurant.
En tout cas, chacun doit avoir le choix. Moi, ça, c'est mon grand credo.
Je sais, c'est pour ça que je vous en parle.
Chacun doit avoir le choix. Oui. Mais ce passeport, la question et le débat doit avoir lieu. Mais il doit avoir lieu à partir du moment où on a suffisamment de personnes vaccinées. C'est trop tôt.
Il faut le mettre en place aussi. Le plan de relance. La Chine a pris... Plan de relance européen. Ça inquiète beaucoup de monde. La Chine a pris beaucoup d'avance. La relance économique. Les États-Unis aussi sont en train d'accélérer fort. Et l'Europe dans tout ça. Mais l'Europe prend du retard. Le plan de relance européen a été voté l'année dernière. Et toujours pas de mise en place. Rien. Des États sont en train de freiner. Est-ce que ça vous inquiète, Barbara Pompili?
Non, ça ne m'inquiète pas parce que l'Europe, c'est aussi une énorme protection pour nous, pour les Français. Et puis, le plan de relance européen, il se traduit en France déjà. Il se traduit en France dans le plan de relance français. Dans les 100 milliards qui sont injectés dans l'économie d'ici 2 ans, il y a de l'argent.
Qui seront injectés?
Ah non, qui sont déjà injectés.
Déjà, mais en 2 ans.
Qui sont déjà
100 milliards en 2 ans.
Qui sont déjà injectés. Qui sont injectés, notamment 30 milliards dans la transition écologique. J'y tiens beaucoup. Vous savez, nous, on a mis 2 milliards, par exemple, pour la rénovation des logements. Les 2 milliards, ils vont être plus qu'engloutis. 4 milliards pour les bâtiments publics. C'est déjà en train d'être
engloutis. Oui, mais est-ce que nous ne risquons pas?
Donc ça avance. Non, mais il
ça
faut,
avance. Mais est-ce que pas, nous ne faut... risquons pas de vivre avec la relance économique ce que nous avons vécu avec les vaccins?
Mais non, il faut pas être défaitiste.
Bon,
il faut
pas défaitiste.
Il faut pas être défaitiste.
Je pose des questions.
L'Europe, oui. C'est un moteur puissant pour nous. Vous savez, par exemple, là, on est en train de mettre de l'argent pour décarboner les entreprises, pour qu'elles changent de système, pour qu'elles arrêtent d'utiliser des chauffages, par exemple, qui soient des chauffages au fioul, pour passer vers des chauffages plus performants écologiquement. Eh ben, ça, c'est des efforts qu'on demande aux entreprises et qui vont être aidés par l'Europe. Au niveau de l'Europe, on veut mettre en place ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières. C'est un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce sujet-là, il a été porté au sein de l'Europe, il est porté par l'Europe, il commence à être pris par Joe Biden aux États-Unis, qui commence à parler du sujet. On commence à essaimer grâce à ça. Donc l'Europe, c'est un puissant vecteur d'entraînement des autres pays. Donc le plan de relance européen, vous dites qu'il ne va pas assez vite, sauf que Joe Biden, quand il lance son plan de relance, c'est aussi en réponse au plan de relance européen.
Oui, en réponse.
Il l'a lancé, l'argent est déjà arrivé chez les Français, je peux vous le dire.
Bon, Barbara Pompili, nous verrons la suite. J'ai une autre question à propos de... conséquences du Covid, puis on passera à la loi climat, on passera à l'alimentation, au déplacement. Bon, mais le chèque alimentaire promis par Emmanuel Macron, moi je me souviens, c'était il y a quelques semaines déjà, c'était même en 2020, fin 2020 me semble-t-il.
Il en avait parlé au moment de la Convention citoyenne pour le climat.
Alors quand
c'est... normalement dans les semaines mois qui viennent. En fait,
attendez. Dans les semaines mois qui viennent, ça c'est vague.
Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est donner l'impression qu'on refait une aide alimentaire quelconque. Là, le chèque alimentaire qu'on veut mettre en place, c'est un chèque alimentaire qui permet aux gens de manger de la nourriture de qualité, c'est-à-dire d'aider à des produits bio, à des produits de saison, etc. En fait, l'idée, c'était de certains, c'était de le mettre dans la loi. C'est pour ça que ça a beaucoup fait parler là. Mais en fait, on n'a pas besoin de loi pour faire ça.
Non, mais d'accord.
C'est un règlement.
Très bien,
donc, on est en train de regarder comment ça se met en place, mais ça va arriver vite. Je ne veux pas vous donner une date précise, parce qu'à partir du moment où la date sera passée, on me dira, c'est pas cette date.
Il est dommage quand même que le président de la République parle, c'est important ce chèque alimentaire,
c'est vrai.
Parle de chèque alimentaire, et qu'on ne sache rien sur ce chèque quelques semaines, je dis même quelques mois après, puisque nous sommes en avril, et que c'était en décembre. Quelques mois après, on ne sait rien, on ne sait pas combien, on ne sait pas qui pourra en bénéficier. Barbara Pompili.
Alors, je vous invite à écouter les débats du projet de loi, puisqu'on va en parler, puisque c'est un sujet qui mobilise aussi les députés. On va en parler, mais...
Alors, qui pourra en bénéficier
Les personnes qui sont le plus en difficulté. Mais je ne vais pas, encore une fois, s'il vous
plaît. Combien ?
Moi, je veux bien qu'on continue à en parler, Jean-Jacques Bourdin. Je ne peux pas vous donner d'annonce aujourd'hui sur le chèque alimentaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on veut le faire et qu'on va le faire et qu'on va le faire vite. C'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Mais si vous voulez me poser plus de questions, je peux vous répéter ça pendant
qu'un... Mais
vous m'avez dit que vous aviez plein de questions à me poser.
J'ai plein de questions à vous poser.
Non, mais on va le faire.
Pardon, ce n'est pas moi qui ai fait la promesse, Barbara Pompili. C'est le président de la République.
Elle sera tenue.
Bon. Eh bien, nous verrons. Et je reviendrai sur la question, ne vous inquiétez pas. Barbara Pompili,
quand vous voulez.
Notre alimentation et celle de nos enfants. On va passer la loi, parce que finalement, dans la loi climat, on parle beaucoup d'alimentation et celle de nos enfants. J'ai été frappé par tous les débats autour des repas végétariens ou pas. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est à propos des repas végétariens ?
Ça va arriver là dans l'hémicycle la semaine prochaine.
Et alors, quelle est la position définitive du gouvernement
La position du gouvernement est une position sur laquelle il faut laisser le choix. En fait, on a fait des débats fous sur cette histoire, alors que c'est simple. Ceux qui veulent manger végétarien doivent pouvoir manger végétarien, et ceux qui veulent pouvoir manger de la viande doivent pouvoir manger de la viande.
La loi,
mais de la viande de meilleure qualité.
La viande de meilleure qualité.
De la viande
la loi
française, de la viande de
la
terroir.
Liberté à toutes les municipalités de proposer deux menus, si j'ai bien compris, un menu végétarien et un menu avec viande.
Il y a plusieurs options qui sont sur la table, les députés vont en discuter, vont le voter.
Mais
ce que je souhaite, c'est qu'on puisse tout simplement avoir le choix, c'est tout. Pourquoi ? Et pourquoi on fait ça ?
Oui.
Pourquoi on fait ça ? Parce que les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'élevage sont des émissions très importantes. On a des études aujourd'hui sanitaires qui montrent que manger trop de viande n'est pas bon pour la santé. Donc ce qu'il faut, c'est que on arrête d'importer trop de viande, qu'on mange de la bonne viande locale de chez nous, qu'on en mange moins et qu'à côté de ça, on mange
d'autres
types de menus.
Encore faut-il savoir d'où viennent les produits qu'on mange et qu'on donne à nos enfants à la cantine. Est-ce Est-ce que vous savez d'où viennent les poulets et les dindes que nos enfants mangent à la cantine ?
Il y en a une partie française, une partie importée.
Est-ce qu'on le sait ? Personne ne le sait. Ni les parents, ni le cuisinier qui cuisine le produit, ni les enfants qui le mangent. C'est faux.
Non.
Tout ce qui est volaille n'est pas estampillé, vous le savez très bien. À part les labels.
Non, vous avez des quand vous passez des commandes, vous avez des numéros qui vous permettent de savoir d'où vient votre viande. Ah bah si.
La viande rouge, viande de bœuf.
Non, y compris
les volailles.
Les poulets.
Ah bah oui. Vous êtes certaine de cela?
Ah bah oui, y compris les poulets, bien sûr. Bien sûr.
Si mon poulet vient d'Ukraine, du Brésil ou d'ailleurs.
Non, oui, vous avez. Alors, il faut reconnaître ce que sont les petits
logos.
Vous croyez que.
Mais par contre, le cuisinier, la
personne qui passe la commande doit le savoir.
Et pourquoi
après, l'information n'est pas toujours donnée.
Mais pourquoi le sait-on pas?
Mais parce que.
Comme pour la viande de bœuf.
Alors. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut que les gens sachent ce qu'ils mangent, que les gens sachent ce qu'ils achètent. Et c'est ce qu'on fait dans la loi climat-résilience. Dans la loi climat-résilience, au fur et à mesure du temps, d'abord sur les vêtements, puis sur l'alimentation et aussi sur les voitures, là très rapidement, quand les gens vont aller acheter leurs produits, eh ben, ils auront une étiquette qui leur dira si c'est bon ou si c'est mauvais pour l'environnement. Après, ils feront leur choix. Moi, je suis vraiment pour le choix. Donc, ils arriveront, ils verront. Bah, c'est sur le même principe que les étiquettes, vous savez, dans les logements. Voilà. Et ben, vous allez avoir votre produit est bon, moyen, mauvais, et ça pourra leur donner une indication. Moi, ce que je crois, c'est que quand on voit des applications comme Yuka, par exemple, pour la nourriture, ça marche très bien parce qu'on sent qu'il y a une volonté justement des gens de savoir ce qu'ils achètent. Et ben, grâce à la loi climat résilience, ça va être.
Eh bien, la loi climat résilience qui est en discussion à l'Assemblée nationale, 130. Article. Alors, les associations environnementales disent qu'elle n'est pas à la hauteur. Vous allez me dire c'est pas vrai. Je vais pas rentrer dans ce débat. Moi, je vais être concret. Le référendum, alors c'est pas dans le texte qui est discuté là. On est bien d'accord. Intégration de l'article 1 dans la Constitution. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Je rappelle, la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le changement climatique. Le Sénat préfère le mot agir à garantir. Il n'y aura pas de référendum.
Oh, mais vous êtes pessimiste.
Mais je ne suis pas pessimiste.
Mais c'est pas possible.
Mais toutes celles et ceux que je reçois me disent qu'il n'y aura pas de référendum.
Oui, mais toutes celles et ceux que vous recevez sont des gens qui n'ont pas envie de se battre et qui n'ont pas envie que les choses avancent.
Alors, il y aura un référendum ?
Je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est que l'Assemblée et le Sénat arrivent au même texte.
On est d'accord.
C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Et ensuite, on passe au référendum, c'est les Français qui vont voter. Moi, je crois que... À l'Assemblée comme au Sénat, il y a une prise de conscience très forte de l'enjeu écologique et de la nécessité de le placer dans l'article 1 de la Constitution, c'est-à-dire dans le sommet de nos valeurs.
Oui.
Et pour ça, je crois que tout le monde peut faire un pas. Donc l'Assemblée a voté, le Sénat, on va voir ce qu'ils voteront, mais après, l'histoire n'est pas finie. Après, ils peuvent continuer à travailler pour arriver à un
texte commun.
Mais bon sang, si je n'y croyais pas, j'aurais arrêté de faire de la politique depuis longtemps. Quand on s'occupe d'écologie, je peux vous dire qu'il faut y croire à un moment.
Oui, ça c'est sûr.
Et je suis heureuse de voir que les choses avancent sur ces sujets-là beaucoup plus vite qu'il y a quelques années.
Bon, cette semaine, dans ce débat, on parle beaucoup de mobilité.
Oui.
Hein, de mobilité. Alors, en 2030, dans 9 ans, ne pourront être vendus que des véhicules électriques et hybrides. C'est bien cela ?
Non. Non. Ça, c'est en 2040. En 2040, il n'y aura plus de vente de voitures thermiques.
Terminé.
Et en 2030, c'est un jalon qu'on met, c'est les véhicules qui émettent plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, c'est un jalon qu'on pose. Mais ce qu'on fait surtout dans cette loi, c'est qu'on va enfin s'attaquer vraiment à la pollution de l'air, au fait que aujourd'hui on a trop de personnes et trop d'enfants notamment qui sont au niveau des pots d'échappement, là je vois les voitures qui passent, et qui se prennent des particules et des oxydes d'azote. On va mettre en place ce qu'on appelle des zones à faible émission. On va en mettre en place 45 en France.
Oui.
On est très en retard en Europe sur ces questions-là. On en a
plus rouler dans ces zones avec un diesel antérieur au 31 décembre 2000 et avec une voiture essence antérieure au 31 décembre 1996.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire.
Oui,
ça veut dire que d'ici 4 ans, on aura baissé, par exemple, à Paris, de 40% la pollution de l'air. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Et ça va permettre à des personnes, enfin, de ne plus souffrir des bronches. On a 48 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. Hein, c'est la deuxième forme de mort évitable en France qu'on va réussir à éviter grâce à ça.
Bon,
donc
Barbara,
ça, c'est une mesure importante
qui est
dans le projet de loi.
Écotaxe ?
Oui.
Écotaxe, oui. Niveau départemental.
Régional. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a certaines régions qui souhaitaient mettre en place une écotaxe et d'autres pas. Il y a eu des gros débats il y a quelques années. Et donc là, encore une fois, on laisse le choix. C'est-à-dire qu'on dit aux régions, si vous voulez mettre en place une écotaxe, vous pouvez. Si vous ne souhaitez pas les mettre en place, vous ne la mettez pas. Bon. Donc c'est un outil qu'on donne aux régions. Dans cette loi, on donne beaucoup d'outils aux collectivités pour qu'elles puissent appliquer la politique écologique en fonction des spécificités de leur territoire. L'Alsace l'a déjà fait et d'autres souhaitent le faire, et bien qu'elles le fassent. Mais encore une fois, c'est à elles de décider ce qui est le meilleur pour leur région.
Baisse de la TVA sur les billets de train ?
Ça, c'est pas prévu dans le
projet. Oui, je sais, mais non, c'est demandé par beaucoup.
L'important...
Même c'est... les Républicains... demande.
D'accord.
Ah oui, mais
d'accord. Et après ils vont nous demander comment on paye. Moi ce que je veux, c'est que les gens puissent prendre plus le train. Donc ce que je veux, c'est qu'il y ait des trains déjà plus d'offres de trains et que les billets soient moins chers. Est-ce que pour ça, il faut passer par une baisse de TVA ? Pas forcément. On a d'autres moyens pour ça. On a travaillé avec la SNCF qui, là, justement, nous ont déjà fait des annonces sur des baisses de tarifs, sur une meilleure lisibilité des tarifs. Ce que je veux, c'est qu'il y ait aussi des tarifs qui soient plus adaptés pour les personnes qui ont des difficultés, etc. etc. La baisse, c'est toujours le truc, moi, qui m'énerve, c'est qu'il y aurait une solution unique à un problème. La baisse de TVA ne va pas forcément se répercuter sur les prix. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les prix baissent. C'est ça qui nous importe, qu'ils soient plus lisibles. Donc sur les mesures pour les trains, pour les transports en commun, etc. On a plein d'autres mesures que les mesures sur la TVA. On a aussi des mesures pour que les gens puissent acheter des nouvelles voitures. Parce que tout à l'heure on parlait des zones à faible émission. Il y a des voitures qui pourront plus rentrer.
Vous parlez des prêts.
Alors, je vous parle pas que des prêts. Je vous parle de la prime à la conversion pour les voitures, des bonus écologiques pour les voitures et aussi.
Enfin, pas de prêts à taux zéro quand même.
Hein, vous avez des microcrédits qui sont prévus. On a 5 000 euros de microcrédits qui sont prévus.
C'était une proposition citoyenne, citoyens,
attends,
le prêt à taux zéro.
Pardon, mais les microcrédits, ce sont des prêts qui sont garantis par l'État, qui permettent à des personnes qui ont des difficultés, qui ont du mal à pouvoir payer le reste de leur voiture. Je vous rappelle qu'avec les aides qu'on a aujourd'hui, on peut avoir 12 000 euros pour l'achat d'une nouvelle voiture. Et dans les zones à faible émission, ça peut monter à 14 000 euros avec la prime à la conversion, avec les bonus. Si vous voulez acheter une voiture électrique ou hybride, même si vous achetez une voiture d'occasion, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une grosse voiture, non seulement une grosse voiture, mais une voiture neuve, vous avez 5 000, vous pouvez avoir 7 000 euros de bonus et de prime à la conversion pour acheter une voiture d'occasion. Donc tout ce que je vous dis là, c'est que on met beaucoup de choses en place dans cette loi, mais on met en place systématiquement les accompagnements. Moi, ce que je veux, c'est que l'écologie et le social soient toujours liés et qu'il n'y ait personne sans solution. C'est
commande
très
publique soumise à des critères environnementaux.
Oui.
Hein, ça y est, c'est voté.
Ça a été voté la fin de la semaine dernière. Là, on est sur une mesure très importante. On est sur 200 milliards. 200 milliards par an de commandes publiques qui vont être basées sur des critères environnementaux. Et donc ça va permettre aussi de donner des perspectives aux entreprises qui veulent développer des produits verts, qui veulent s'orienter dans des investissements verts, ils auront des débouchés. C'est très important et c'est aussi important pour nos agriculteurs qui vont avoir des débouchés s'ils vont vers l'agroécologie.
Alors sur ce projet de loi climat résilience qui est basé finalement sur les propositions des citoyens, des recommandations de la Convention citoyenne. J'ai regardé toutes les enquêtes, 149 propositions. Reporter nous dit 90% des propositions n'ont pas été reprises par le gouvernement. 53% sont rejetées ou non appliquées. 37% modifiées ou édulcorées. Barbara Pompili, je sais pas, j'ai lu ça. Reporter, c'est sérieux ou pas sérieux?
Ah, mais tout le monde est très sérieux.
Ah oui, tout le monde est très sérieux.
Tout le monde est très sérieux.
Compris, d'ailleurs, ces recommandations de collectifs citoyens, ça ne sert pas à grand-chose. Je le vois avec le vaccin, où on n'en parle jamais, où on ne sait jamais où sont passés ces citoyens. Et franchement...
Non. Moi, les membres de la Convention citoyenne pour le climat, d'ailleurs, certains commencent à le dire, quand ils voient la loi qui avance, avec les mesures qui sont prises, même si ça ne va pas forcément aussi loin que ce qu'ils voudraient sur certains aspects, pas sur d'autres, parce que sur la rénovation des logements, par exemple, on va faire une rénovation de A à Z. Enfin, juste un point là-dessus. Quand vous demandez à quelqu'un, tiens, est-ce que tu voulais faire des travaux pour ton logement, est-ce que c'est... oh là là, c'est compliqué. Ou alors c'est trop cher. Là, pour la première fois, on va avoir, de manière généralisée sur toute la France, un accompagnement de A à Z. Vous allez avoir une personne en face de vous, pas un ordinateur, une vraie personne qui va venir voir ce dont vous avez besoin, qui va vous aider à faire votre devis, qui va vous aider à récupérer les aides, qui va vous aider à faire un plan de financement.
Cette personne sera payée par qui ?
C'est pris en charge par l'État.
Par l'État.
Et ensuite, qui va vous aider aussi à faire vos travaux. C'est en moyenne, ça.
Ouais,
c'était 1200 euros. Ça dépend un peu.
Ça dépend. Bon,
mais donc, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider
à la fin
et qui va vous aider aussi à trouver le reste à charge, parce que le reste à charge, parfois, c'est ce qui fait qu'on fait pas les travaux, qu'on fait pas des travaux importants. C'est pas juste changer une chaudière. Et on va mettre en place dans la loi aussi ce qu'on appelle le prêt avance mutation. Donc même des personnes qui ont des difficultés à payer, en fait, ne paieront juste que les intérêts et le remboursement du prêt se fera au moment de la vente. Voilà des choses concrètes qu'on met dans la loi qui vont changer la vie des gens et qui vont nous permettre enfin de rénover les fameuses passoires thermiques, c'est-à-dire là où on a très froid l'hiver, très chaud l'été et qui coûtent 3 à 4 fois les frais de chauffage normaux que les gens devraient avoir.
Barbara Pompili, l'État va devenir le premier actionnaire d'Air France. Air France va devoir céder des créneaux qui vont être récupérés par d'autres compagnies, qui vont être obligés de respecter le droit fiscal et social français, mais rien sur l'environnement. Aucune exigence supplémentaire sur l'environnement.
Si. Au contraire. Air France s'engage énormément sur sa flotte, sur le verdissement de sa flotte. Ils ont abandonné les A380. Ils sont en train d'abandonner les vieux A340. Ils sont sur un verdissement de leur flotte. Ils travaillent aussi sur les carburants alternatifs. Bien sûr qu'ils ont des obligations environnementales. L'important, c'est l'avion va continuer évidemment à exister. Nous, ce qu'il faut, c'est que on fasse en sorte que ce soit un avion plus vert. Donc, on met de l'investissement
à hydrogène
pour un avion
bientôt,
plus vert.
Peut-être.
Oui, bientôt. On va faire tout pour. Mais il faut adapter les aéroports pour ça. Et puis, à côté de ça, par contre, ce qu'on fait aussi dans la loi, c'est qu'on dit que quand on a des trajets qu'on peut faire plutôt en train, faisons-les en train. Et donc, on empêche.
Oui,
on dit
deux heures et demie.
À 2h30 de train, il vaut mieux prendre le train plutôt que de prendre l'avion.
Les correspondances seront toujours assurées.
Et oui, donc des avions volants. On travaille aussi pour faire de l'intermodalité. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas forcément, quand ils ont une correspondance, à faire avion plus avion. Ils peuvent faire train plus avion. Et c'est pour ça aussi qu'on fait arriver les trains dans les aéroports.
Puisque vous parlez d'avion, le maire de Poitiers reconnaît une maladresse. C'est bien. Donc on va clore le débat.
Voilà.
Mais en revanche, une dernière question. Très vite, la réponse, Barbara Pompili. La France ne peut pas se passer du nucléaire. Il faut de nouveaux réacteurs. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Bayrou, qui est le haut commissaire au plan. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Il faut de nouveaux réacteurs. Oui ou non?
Alors, il préfère une opinion, il a le droit. Moi, je préfère me fonder sur les faits. Moi, j'ai commandé avec ma prédécesseure une étude à l'Agence internationale de l'énergie. Donc, c'est pas François Bayrou, ce sont des gens qui connaissent
plus
le sujet.
Plus compétents.
Et à RTE, Réseau de Transport d'Électricité, donc des professionnels qui ont sorti une étude il y a 2 mois pour dire qu'on pouvait se passer du nucléaire. Après, il y a des défauts dans la solution avec du nucléaire, des défauts avec la solution sans nucléaire, mais c'est possible. Donc, moi, j'aimerais, c'est qu'on puisse parler des faits et qu'on parle surtout du fait que quoi qu'on fasse, il faut qu'on développe les renouvelables.
C'est pas sérieux.
Aujourd'hui, on doit passer à 40% de renouvelables en 2030. On a du travail, investissons là-dessus.
Donc c'est pas sérieux.
Dire ça, c'est ne pas voir les faits. Après, encore une fois, on peut avoir des préférences.
Merci Barbara Pompili d'être venue nous voir ce matin sur RMC
BFM
TV. Merci.